au 99.1 88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Claude Fournel.
Nous sommes jeudi 25 septembre à l'émission aujourd'hui avec Jacques Plante. On va parler des coupures de postes Canada. J'ai bien l'impression que les petites municipalités là, risquent d'écoper. Pierre-Luc Bellerose sera avec nous, maire de Joliette. Il sera question de travaux routiers à Joliette. Avec Isabelle Perrault, mairesse de Saint-Alphonse-Rodriguez, on va parler du réseau routier de Lanaudière là, qui risque de souffrir des coupures gouvernementales. Également avec nous Sébastien Marcille, le maire de Saint-Roch-Lachigan. Avec qui il sera question du congrès annuel de la Fédération des municipalités du Québec là, qui se tient présentement. Mais tout d'abord, une course électorale à deux formations se profile du côté de Repentigny. D'un côté, le maire sortant Nicolas Dufour et puis son équipe d'Avenir Repentigny. De l'autre, l'équipe du candidat à la mairie Maxime Comtois de la formation Repentigny Ensemble. Une lutte qui semble se dessiner autour notamment de la vision du développement économique et puis de la consultation citoyenne, comme l'explique Maxime Comtois à notre collègue Régent Turgeon.
M. Comtois, d'entrée de jeu, peut-être me parler de votre parcours personnel et professionnel. Vous êtes un Repentignois, là.
Oui, je suis né et grandi à Repentigny. Mon père est né et grandi à Repentigny. Mon grand-père a déménagé dans son jeune temps, fondé sa famille à Repentigny. Sinon, moi, je suis entrepreneur général depuis 11 années. On a racheté une compagnie, il y a 3 ans, une deuxième compagnie, pour redonner encore du service parce qu'on allait perdre la compagnie. Dans le fond, elle n'avait plus de relève et tout ça. Fait que moi et mon père, on a décidé de racheter ça ensemble. Après ça, ça fait 2 ans vraiment que je suis un peu plus la politique. Depuis 2 ans, je m'intéresse à ce qui se passe plus dans mes comptes, vu que je suis devenu propriétaire il y a 5 ans d'une maison. Fait que là, j'ai commencé à regarder les comptes de taxes, ces affaires-là.
Donc, votre intérêt pour la politique municipale n'est pas d'hier, il n'est pas improvisé. Vous êtes candidat à la mairie pour la formation de Repentigny Ensemble. On vous a sollicité ou vous avez proposé vos services?
On m'a sollicité. Je m'intéressais beaucoup à la politique, comme je disais, depuis 2 ans. Mon grand-père avait un intérêt en politique, comme je l'ai suivi quand j'étais tout petit, sa politique, sa carrière. Après ça, j'ai commencé à aller aux séances de la ville et tout ça. Puis là, c'est là que j'ai été remarqué par le parti Repentigny Ensemble, qui sont venus me solliciter à mon entreprise et qui m'ont offert de m'impliquer. Et là, j'ai dit « m'impliquer ». Il m'a dit « comme vous voulez ». J'ai dit « comme maire ». Il a dit « parfait, let's go, on y va ».
Avez-vous mesuré l'ampleur du défi qui vous attend si vous êtes élu parce que vous n'avez pas été conseillé, mais être parachuté dans un poste de maire du jour au lendemain, c'est quelque chose à relever, là.
Oui, c'est tout un défi. J'étais conscient du défi. C'est pas facile. J'ai pas pris ça à la légère non plus. Mon père a travaillé 21 ans aux travaux publics de la ville, fait que j'ai quand même une expérience à savoir c'est quoi ça implique être un maire. Alors, j'ai vu Mme Deschamps dans plusieurs événements connexes à cause de mon père, fait que je suis tout au courant de ça. Fait que sinon, c'est un beau et grand défi qui m'attend.
Parlons un peu de votre programme électoral, même si apparemment il n'est pas complété. On pense, en termes d'engagement, à améliorer les services aux citoyens, avoir une gestion saine, transparente, axée sur les besoins réels des citoyens. C'est ça qui vous motive?
Oui, absolument. En étant moi-même un citoyen, j'ai senti l'urgent besoin de m'impliquer en tant que citoyen pour ma ville. Je voyais où ce que ça s'en allait côté économique, social, culturel, loisir. C'est là que j'ai eu l'appel. Puis notre programme, il est pas complet parce qu'on continue de l'améliorer jusqu'à temps qu'il soit publié. On fait des modifications constantes vu qu'on est toujours en dialogue avec les citoyens à chaque jour au porte-à-porte.
Quelle serait votre vision du développement économique à Repentigny? Parce qu'on parle d'une ville de 88 000 habitants. Vos adversaires d'Avenir Repentigny ont mis de l'avant, en tout cas la mairie, le projet Avantia. Ça vous a interpellé, ce projet-là?
Oui, absolument, parce que je trouve que effectivement le parc industriel a besoin d'amour. T'sais, c'est un parc de comme on dit, 40, 50, 60 ans bientôt, qu'il y ait même plus. Donc, c'est sûr qu'il y a besoin d'être entretenu, d'être amélioré, mais peut-être pas à l'échelle comme ça, en délocalisant nos commerçants, en délocalisant nos entrepreneurs. Fait que, étant moi-même dans le parc industriel, on a vu beaucoup de choses se passer récemment ou pas se passer. Donc, c'est là qu'on veut rentrer en compte pour faire une différence. On veut demander à des experts de nous aider dans le dossier parce qu'on n'est pas nécessairement des experts en urbanisme, en architecture. Fait qu'on veut aller consulter. Après ça, on veut faire une vraie présentation d'un projet qui se peut, qui est réel, réalisable aussi, et aussi qu'on la ville est capable de supporter financièrement.
Un projet à dimension humaine, j'ai lu à quelque part.
C'est en plein ça, à l'échelle humaine.
Ce que vous dénoncez le plus à l'heure actuelle là, chez vos adversaires et chez l'administration sortant du maire Dufour, où est-ce que le bas blesse là?
Pour les citoyens, qu'est-ce qu'on entend, c'est vraiment le compte de taxes. C'est vraiment les taxes qui impliquent. Les commerçants aussi, les comptes de taxes ont quasiment doublé dans le commercial. Fait que c'est sûr que c'est beaucoup niveau taxation qui nous implique. Ouais. C'est le problème de toutes les villes. C'est un moyen d'aller chercher de l'argent, effectivement, mais il y a un moyen de le faire, mettons, à échelle humaine, justement, là.
Il y a des rumeurs qui disent que peut-être que votre formation refuserait un débat un à un contre M. Dufour pour justement débattre de vos idées puis de votre programme. C'est quelque chose que vous êtes encore en train d'étudier?
Absolument, parce que nous attendons toujours le bilan depuis les 4 dernières années de l'administration sortante. Donc, on n'a eu aucun vrai chiffre, aucun détail, aucun budget qui a été réalisé ou qui va se faire réaliser. Donc, nous, on attend une déposition d'un bilan de l'administration sortante, une reddition de compte. Puis après ça, là, nous, on serait prêt à faire un débat. Après ça, un coup que lui, il va rendre, ben, que l'administration sortante, pardon, va rendre public ses chiffres et tout ça.
Seriez-vous en mesure éventuellement de chiffrer financièrement vos propres engagements quand le programme aura été complété?
Dans le programme, il va y avoir certains objectifs qu'on sait qui vont être réalisables parce qu'on a consulté des experts. Après ça, c'est sûr que vu que nous avons personne au budget en ce moment, l'opposition, on n'est pas au courant de tous les chiffres et tout ça, mais c'est sûr que dans notre programme, il va y avoir certains chiffres qu'on sait qui vont être réalisables lors de notre élection.
Les candidats, on en voit 12, il y a des pancartes ici dans le local. On les sent motivés derrière vous à plein régime?
Oui, absolument. J'ai rassemblé une équipe de citoyens vraiment qui voulaient s'impliquer dans tous les niveaux, dans le communautaire, dans les loisirs, dans le culturel. J'ai ramassé une équipe vraiment de citoyens qui veulent s'impliquer dans l'administration d'une ville. On avait besoin aussi de mentors, donc nous sommes allés chercher Sylvain Benoît et M. Langlois qui ont une expérience administrative inémesurable. On ne peut pas la mesurer. Donc après ça, j'ai été recherché comme des citoyens vraiment qui voulaient s'impliquer comme moi pour une administration d'une ville.
L'organisation est solide, les bénévoles sont là.
Oui, absolument. On a plusieurs bénévoles qui s'impliquent avec nous. C'est sûr qu'on a tardé à se faire connaître, donc ça a été plus dur au début, mais de plus en plus, les citoyens nous rapprochent de nous et nous offrent leur support.
Ce qu'on voit l'année de la guerre en politique et surtout en campagne électorale, ben c'est le financement. Ça prend des sous, ça prend des pancartes, acheter de la pub. Le cadre financier, il est là, les ressources sont là.
Oui, on ramasse les dons des citoyens qui nous supportent. Ça, c'est notre manière numéro un d'aller chercher de l'argent dans une campagne électorale municipale. Donc, c'est les dons des citoyens. Donc, tous citoyens qui veulent s'impliquer peuvent nous faire un don, soit en argent, soit avec leur temps, soit de quelconque manière, nous, on est prêts.
C'est Régent Turgeon qui s'entretenait avec Maxime Comtois, candidat à la mairie de Repentigny de la formation Repentigny Ensemble. Dans un moment, on se transporte vers la municipalité de Saint-Roch-de-la-Chigan avec le maire Sébastien Marcille.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 $ en prix avec les trois jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer! As-tu ta carte?
Bingo!
La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Avec tout ce qui se passe, je veux acheter local, mais je sais plus trop où chercher. On avait un bottin avant, mais là, ça fait longtemps.
Il existe toujours, tu le reçois encore par la poste, et maintenant, il y a aussi le site web notreentourage.ca. Un site clair, facile à utiliser, avec seulement des entreprises locales. Ton prochain raccourci préféré pour acheter près de chez toi.
Présenté par les Habitations Bordelot, le Salon 50 Plus de Lanaudière est de retour les 26 et 27 septembre aux Galeries Joliette. Découvrez plus de 70 exposants de produits et services pour répondre aux besoins des 50 ans et plus. Au menu, plusieurs conférences. Chantal Lacroix, présentée par Club Voyage Albatros. Le Pharmacien, présenté par Pharmaprix des Galeries Joliette. Marie-Josée Taillefer, présentée par le Réseau des Cliniques Lobes. et Sébastien Buisson des Habitations Bordelot. Les nouveautés cette année, dégustation de repas prêts à manger convives, des conseils pour la vente de votre propriété, des ateliers de création, des robots. Tentez votre chance pour le moitié-moitié et bien plus. Plusieurs tirages de prix de présence pour les visiteurs. Le Salon 50 Plus de Lanaudière, les 26 et 27 septembre aux Galeries Joliette. Une invitation de FADOC, Région Lanaudière.
CFNJ effectue en ce moment des essais de diffusion au 99.1 FM depuis son nouveau site d'émission à Saint-Félix-de-Valois. Si vous êtes victime d'interférences, communiquez avec nous au 450-404-2365, poste 226.
Chez Bessette, créateur de confort, profitez dès maintenant de rabais exceptionnels sur certaines unités murales allant de 400 à 750 de réduction. Équipez votre maison d'un système performant et économique pour un confort assuré toute l'année. Et profitez de la subvention Logiver pouvant aller jusqu'à 2000. Et ce n'est pas tout. Mentionnez CFNJ lors de la prise de rendez-vous et obtenez un rabais exclusif. Appelez Bessette, créateur de confort, dès aujourd'hui pour profiter de cette offre limité.
Avec vous, partout dans la Naudière.
Saint-Didas, Notre-Dame-de-Lourdes, Joliette, Saint-Gabriel-de-Brandon.
CFNJ, 99.1-88.9.
Ici, la musique américaine, on le sent à Trump.
La Naudière PM, affaires municipales.
Ouais, je vous amène pas directement à Saint-Roch-la-Chigan, mais on va passer par Québec. Vous allez comprendre parce que jusqu'à dimanche, à Québec, se déroule le congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités. Et François Morin a jasé un peu plus tôt avec le maire de Saint-Roch-la-Chigan, Sébastien Marcil, qui, d'entrée de jeu, mentionne que la région de la Naudière manifeste beaucoup d'intérêt pour participer là, à un tel événement. On l'écoute.
Écoutez, ça serait impossible de tous les nommer sans en oublier parce qu'à peu près toutes les municipalités de la Naudière sont représentées dans ce congrès annuel-là. C'est le congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités. Donc, peu importe qu'on soit de la MRC des Moulins, j'ai vu le maire de Mascouche, des représentants des élus de la Matawini, de la MRC d'Autré, de la MRC de Montcalm, évidemment, puis de la MRC de la Matawini aussi. Donc, peu importe où on se situe dans la région de la Naudière, à peu près tous les élus, conseils municipaux, toutes les municipalités, je pense, sont représentées actuellement au moment où on se parle. C'est un rendez-vous incontournable à chaque année là, pour l'ensemble des régions du Québec.
Bon, justement, il y a de l'intérêt non pas seulement à réseauter, mais peut-être à planifier certaines stratégies parce qu'on sait que les relations, des fois, avec le gouvernement sont pas faciles.
Ben, c'est une des questions fondamentales. Puis à chaque année, ça revient souvent, c'est la paperasse, l'alourdissement. Puis on martèle le message, nous, les élus municipaux. Oui, c'est l'occasion d'avoir des ateliers, des conférences pour nous mettre à jour sur les nouvelles lois, les nouveaux règlements, les meilleurs principes d'aménagement dans nos municipalités. Mais c'est aussi une instance politique où comme fédération, ben, l'ensemble des élus du Québec dans les municipalités, on se met ensemble pour porter des messages au gouvernement du Québec. Et un de ceux-là, ben, c'est d'alourdir la paperasse, de nous donner les moyens de servir nos citoyens plus facilement, plus agilement. Puis les ministères, on constate malheureusement, ça travaille pas toujours en équipe. Souvent, on a l'impression que c'est en silo. Puis nous, ce qu'on leur dit, c'est bien, ministère de l'Environnement, ministère de l'Éducation, ministère des Affaires municipales, bien, parlez-vous, là, ben, on est. Donc nous, ça multiplie toujours les interlocuteurs, le ministère des Transports, puis ça alourdit toujours notre tâche contre l'intérêt du citoyen. Donc, il y a des projets qu'on aimerait voir le jour beaucoup plus rapidement pour le bénéfice de nos populations qu'on représente.
Bon, justement, dans le contexte de restrictions budgétaires qu'on connaît là, depuis plusieurs mois, il y a des inquiétudes qui perdurent, et d'autant plus que là, on annonce des compressions là, au sein du ministère des Transports. Ça, c'est définitif.
Oui, puis nous, le message qu'on lance, c'est maintenir... puis on comprend la situation budgétaire du Québec. Là, honnêtement, on gère nous-mêmes des budgets dans nos instances municipales. Mais ceci dit, il y a quand même l'incontournable nécessité et obligation d'avoir un soutien financier pour le maintien de nos infrastructures, qu'on parle aqueduc, égouts, réseaux pluviaux, mais aussi nos infrastructures sportives là, qui permettent à nos populations, à nos enfants, nos aînés de rester en santé, de faire de la prévention. Heureusement, on a eu l'engagement aujourd'hui du premier ministre François Legault qui était là, qui vient juste de prendre la parole justement, que ces investissements-là allaient être maintenus. Donc ça, c'est une bonne nouvelle parce que nous, ça nous donne les moyens de continuer directement là, dans nos interventions puis nos services auprès de la population.
Donc, M. Legault, si je comprends bien, c'est fait rassurant, mais je vais me faire un petit peu l'avocat du diable. C'est beau promettre un maintien des montants, mais les besoins sont grandissants et ça coûte de plus en plus cher.
Et ça coûte de plus en plus cher, et surtout, puis là où on martèle notre message, c'est l'alourdissement de la paperasse. Parce que des projets, oui, coûtent de plus en plus cher, parce qu'on nous demande toutes sortes de tests, d'obligations d'ingénieurs, d'obligations de tests environnementaux, tout ça. Et on demande pas d'aller à l'encontre des bons principes d'aménagement, tout ça, mais ce qu'on demande, c'est de nous donner les coûts des franges pour que ça coûte moins cher et plus facilement. Puis oui, effectivement, on va rester vigilant parce que faut que les bottines suivent les babines. Un autre des dossiers, puis là, je vous comprendrai, puis vos auditeurs de la Naudière, la couverture du réseau cellulaire, les auditeurs de la Naudière vont comprendre, là, la couverture du réseau cellulaire là, partout au Québec, là, ça a été promis par le gouvernement Legault il y a déjà quelques années, puis on l'attend là, de pied ferme, parce que ça, on a martelé encore que ce serait pas négociable. Là. C'est pas normal en 2025 qu'on n'ait pas accès à un réseau cellulaire de qualité partout au Québec où on se trouve là sur le territoire.
Est-ce qu'il n'y a pas une chicane de juridiction, justement, entre le fédéral puis le provincial là-dessus?
Il y a surtout une chicane entre les fournisseurs de réseaux cellulaires qui sont pas pressés d'offrir le service malgré les offres de subvention du gouvernement provincial. Donc c'est là où le bas blesse, c'est ce que le premier ministre mentionne, puis on en est conscient nous aussi, les municipalités. On le voit, mais à un moment donné, nous on est des acteurs régionaux. Notre but, c'est d'occuper le territoire. Ben, occuper le territoire, ça veut dire offrir un réseau cellulaire. Donc, peu importe, après ça, les positions des distributeurs privés, ben, à un moment donné, il faut que le gouvernement y aille par des moyens de justice législatifs ou de contrition, mais d'obliger ces fournisseurs-là à nous offrir un service de qualité. Les subventions sont là, il n'y a pas de raison de ne pas l'offrir. Là. Comme ça se fait partout ailleurs dans le monde, il y a plusieurs pays qui offrent le couverture cellulaire digne de ça en 2025.
Bon, c'est François Morin qui parlait avec le maire de Saint-Roch de la Chigan, Sébastien Marcil, qui est à Québec là, jusqu'à dimanche pour le congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités.
Lanaudière PM. Transport.
Oui, on va parler transport et rester dans le domaine municipal, puisque une nouvelle que rien pour rassurer les maires de la Naudière, le Québec, qui s'apprête à couper 200 employés au ministère des Transports, de la Mobilité durable, la région qui risque encore une fois d'écoper. Faut le rappeler, le réseau routier dans la Naudière a vraiment besoin d'investissement. Et François Morin en a jasé avec la mairesse de Saint-Alphonse, Rodriguez, Isabelle Perrault.
Ben non, parce que tu sais, même si on comprend que c'est justifié là par des impératifs budgétaires, des objectifs de rationalisation, là, le premier ministre l'a bien dit, veut couper dans la paperasserie, la surcharge de délais administratifs et pour ce faire avoir des compressions aussi d'employés de superflu dans la fonction publique. On a bien entendu ça. Maintenant, ce que ça peut faire au ministère des Transports, qui est déjà en sous-effectif, sous-financé aussi pour la région de la Naudière. On se rappelle que la région de la Naudière est aussi sous la direction régionale de la région de Laurentides. Donc, deux régions pour un seul directeur régional. Pas beaucoup d'effectifs, pas beaucoup de budget. Je cherche des arguments positifs et constructifs là, dans cette annonce-là, puis j'en vois pas beaucoup.
Bon, ben justement, c'est qu'une des récriminations, c'est qu'on disait, bon, ben là, on manque de personnel, le processus décisionnel est long.
Et lourd, et
évidemment, les décisions se prennent à Saint-Jérôme, donc dans un secteur où on ne connaît pas nécessairement la Naudière. Quand il y a des priorités dans les Laurentides, ben celle de la Naudière passe probablement deuxième. On veut faire plus avec moins, mais là, on va faire encore moins avec moins.
Moins avec moins. Puis, tu sais, aussi, souvent, ce que ça touche directement, c'est la capacité d'innover au sein d'une équipe. T'as moins de monde, t'as moins de ressources financières, moins de ressources matérielles, moins de ressources humaines. Tu fais ce que tu peux, là. On comprend bien ça. Donc, je ne sais pas trop comment ça va s'actualiser sur le terrain, mais j'entrevois pas là que ça va nécessairement améliorer le parc de notre réseau routier dans la Naudière. Il faudra surveiller ça de très près.
D'autant plus qu'on le sait, là, il y a des projets qui tardent à être réalisés depuis plusieurs années déjà, notamment, entre autres, la route de Manoine. Je répète ma question du début, ça regarde pas bien.
Non, effectivement. Tu sais, pour ce qui est de la route de Manoine, là, il y a eu des petites interventions. Il y a un comité qui s'est créé autour de la route de Manoine pour en assurer la sécurité, puis les franchir quelques étapes d'amélioration. Mais c'est trop peu, trop tard. Je veux dire, c'est une goutte d'eau dans l'océan, là, ce qui se fait, puis la demande autant de la communauté de Manawan qui est très supportée par le restant des municipalités, c'est ça prend une route digne de ce nom pour se mener à ce village là qui a quand même 3000 habitants puis qui est pas sécuritaire la plupart du temps, donc ça regarde très mal en effet.
Récemment, on a eu un épisode un peu, je dirais pas dramatique, mais qui a compliqué la vie de bien du monde, et c'est entre Berthierville et Lanoraie. Si on coupe du personnel, il risque d'y avoir encore moins d'effectifs pour effectuer de la surveillance.
C'est inquiétant, effectivement, parce que c'est la surveillance là, qui a mis à jour cette problématique urgente. Là, c'est déjà inquiétant qu'une situation aussi urgente soit découverte à la dernière minute. Là, ça aurait été catastrophique là, que ce tronçon-là s'effondre sans que personne se soit aperçu de la problématique. Des gens auraient pu en mourir. Oui, effectivement, il y a d'autres... un des problèmes qu'on vit, là, entre autres, à Saint-Damien, c'est des ponts qui sont coupés à la circulation parce qu'ils ont été détonnés ou jugés trop dangereux. Ils vont être réparés quand? Je vous rappelle le débit en 2024, là, la tempête débit au mois d'août, qui a fait céder un pont à Sainte-Marceline sur le pied de la montagne, qui non seulement est pas réouvert, mais ils ont planté des arbres aux alentours, là, tu sais, juste pour vous dire que ça va être dans combien d'années que ces réparations vont être là. Et pendant ce temps-là, c'est la population qui est directement touchée avec des voies de contournement de plusieurs kilomètres pendant plusieurs années. Je veux dire, c'est pas bon pour la qualité de vie, c'est pas bon pour l'économie, ça fait en sorte que la fluidité entre les municipalités puis entre les régions est obstruée. Il y a rien de positif là-dedans, là.
Ça pourrait pratiquement devenir un enjeu électoral parce qu'on le sait très bien, après la santé et l'éducation, le ministère des Transports, c'est un des postes budgétaires les plus importants au sein du gouvernement. Et là, on coupe là-dedans.
Bien, ça va être un enjeu électoral, c'est certain, puisque la qualité de vie des gens, le quotidien des gens est affecté directement par la qualité des routes. Donc, c'est certain que que les gens vont soulever ces irritants-là. Puis quand je dis irritants, là, les gens de Saint-Damien sont irrités à un niveau déjà élevé, puis ils viennent tout juste d'être fermé ce pont-là, puis il y en a deux autres qui ont été détonnés. Donc, tu sais, si la municipalité de Saint-Damien, s'il fallait que les deux autres ponts soient fermés, ils deviennent pratiquement enclavés. Je veux dire, les gens vont être irrités à un point de façon très, très importante et avec raison. Donc là, on coupe du personnel, on coupe des ressources financières. Je veux dire, l'espoir que le pont soit réouvert à moyen terme est presque absent, là.
Il y a des messages qui vont donc se passer d'ici octobre 2026.
C'est clair.
Voilà, c'était Isabelle Perrault, mairesse de Saint-Alphonse-Rodriguez. Il est 16h30.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Bon, la métropolitaine pour Charles de Gaulle, assez dense. Bon, ça, c'est en raison des précipitations. Faut prendre son mal en patience. Là, ça devient dense depuis avant Marien et sur jusqu'à... Ouais, un petit peu passé Henri Bourassa. Traversée quand même facile vers la rive nord. Repentigny, un peu dense, secteur du boulevard industriel. En direction ouest, 40, Repentigny. C'est dense depuis Industriel et ça jusqu'à Benjamin Moreau. Pont, le gardeur, accès facile par Notre-Dame et également par Sherbrooke. 25 nord, c'est dense depuis Henri Bourassa et ce jusqu'à passer la jonction avec la 440 du côté de Laval. Le secteur Terrebonne, ça va bien. Pont Sophie-Masson, pas si mal en ce moment. Et finalement, autoroute 640 entre la 25 et la 40. Direction est, c'est lent depuis environ 2 km avant la montée des Pionniers. En direction ouest, plutôt dense là, de la 40 et ce jusqu'à la montée du Mai. Les nouvelles dans un instant avec Pierre Jubainville.
Du lundi au vendredi, entre 11h et 14h, la Fromagerie Victoria vous propose un délicieux menu midi. Soupe, repas et breuvages à partir de 14$. Rapide et abordable, la solution pour vos dîners pressés. Fromagerie Victoria, 791 rue Gadoury, à Berthierville.
Présenté par les Habitations Bordelot, le Salon 50 Plus de Lanaudière est de retour les 26 et 27 septembre aux Galeries Joliette. Découvrez plus de 70 exposants de produits et services pour répondre aux besoins des 50 ans et plus. Au menu, plusieurs conférences. Chantal Lacroix, présentée par Club Voyage Albatros. Le Pharmacien, présenté par Pharmaprix des Galeries Joliette. Marie-Josée Taillefer, présentée par le Réseau des Cliniques Lob. Et Sébastien Buisson, des Habitations Bordelot. Les nouveautés cette année, dégustation de repas prêts à manger convives, des conseils pour la vente de votre propriété, des ateliers de création, des robots. Tentez votre chance pour le moitié-moitié et bien plus. Plusieurs tirages de prix de présence pour les visiteurs. Le Salon 50 Plus de Lanaudière, les 26 et 27 septembre aux Galeries Joliette. Une invitation de FADOC, Région Lanaudière.
Dans la vie, choisir le prénom d'un enfant, ça devrait être simple. Mais pas pour Vincent. Invité à un souper de famille, il croit faire une grande annonce. Résultat? Un tourbillon de rires, de malaises et de répliques savoureuses. Le prénom, c'est une comédie brillante mise en scène par Serge Denoncourt, où chaque réplique frappe juste et où le rire devient contagieux. Le prénom, présenté le 1er novembre au Centre culturel Desjardins. Réservez vos billets au spectaclejoliette.com et préparez-vous pour une soirée délicieusement drôle et divertissante.
Bientôt, au Festival de la galette de Sarrasin de Louisville, les cousins Branchaud, Grave aux portes, Laurent Saint-Martin, Francis de Grandpré et Éric Lapointe. Du 3 au 12 octobre, c'est le Festival de la galette de Sarrasin de Louisville. Billets au festivalsarrasin.com.
Pierre Jubainville s'abrasse sur la scène municipale cet après-midi. En dernière heure, on apprend la démission du conseil municipal au grand complet à Sainte-Mélanie.
Oui, le maire Louis Fray et quatre de ses conseillers ne se représentent pas aux élections du 2 novembre. Dans un communiqué, les élus notent le climat toxique actuel et les réseaux sociaux et souhaitent que des citoyens positifs prennent la relève. Seule la conseillère Jeanne Gauthier réfléchit toujours à son avenir. On a rejoint Annie Guimont et c'est cette dame qui a eu recours à la justice la semaine dernière pour stopper les projets du maire. Et elle est même en réflexion pour se présenter.
Ma réaction, écoutez, je pense... je suis un peu surprise, honnêtement, mais je pense que c'est peut-être sage de leur part de se retirer. Honnêtement, c'est ce que j'en pense.
Est-ce que vous savez ou vous êtes au courant qu'il y a de la relève possible ou vous-même, êtes-vous intéressé?
J'avoue y réfléchir encore.
Ah oui?
Présentement, je suis en réflexion.
Bon, maintenant, Pierre, la réforme du... on va parler de la réforme chez Poste Canada. Il y a beaucoup de réformes un peu partout, là. Mais Poste Canada, là, les régions risquent d'écoper en plus.
Oui, toute une réforme, c'est terminé. La livraison quotidienne du courrier à domicile à travers tout le pays. Ottawa demande à Poste Canada de se tourner vers les boîtes postales communautaires pour économiser de l'argent.
Poste Canada est à toute fin utile, insolvable et fait face à une crise existentielle.
Le ministre de la Transformation du gouvernement, Joël Lightbound, ne mâche pas ses mots. Il qualifie de désastre la situation financière de Poste Canada.
Depuis 2018, elle a accumulé des pertes de plus de 5 milliards de dollars. Et aujourd'hui, Poste Canada perd environ 10 millions de dollars à tous les jours.
Ottawa est donc catégorique, les choses doivent changer.
Si on ne fait rien, les niveaux de pertes sont carrément inacceptable. La solution ne peut pas être d'injecter toujours plus d'argent. Il faut agir et il faut commencer la transformation de Poste Canada.
Cette transformation passe par la fin de la livraison quotidienne du courrier à domicile au profit des boîtes postales communautaires. Et pour le ministre Lightbound, il est clair que Poste Canada doit aussi faire sa part.
Revoir ses opérations, réduire ses coûts, revoir sa structure de gestion.
Quant au conflit avec les travailleurs des postes, Ottawa espère que ces changements permettront de faire avancer les négociations. Caroline Bertrand, pour Cogeco Nouvelles.
Justement, puisqu'on parle de ce conflit, l'ancien directeur québécois du syndicat canadien de la fonction publique, Marc Rangé, qui ne mâche pas ses mots envers le syndicat.
Je regardais encore hier les communications du syndicat qui continuent à attaquer l'employeur. Aucune flexibilité encore. Je le dis depuis un an, là. Aucune flexibilité. Le train s'en venait à grande vitesse puis il le voit pas. Donc, je pense que le ministre n'a pas eu le choix de dire le premier geste majeur que je dois faire. Puis s'il y avait une bonne nouvelle là-dedans, c'est de dire qu'il n'y a pas de mouvement à la privatisation.
Bon, maintenant, Pierre, autre réforme, celle du régime forestier qui a carrément été jetée aux poubelles par le gouvernement Legault.
Oui, on retourne à la table à dessin pour la réforme du régime forestier. François Legault en a fait l'annonce aujourd'hui. Le projet de loi 97 visait à donner les coups des franches à l'industrie forestière. Il avait été largement critiqué, notamment par les groupes écologistes et la communauté autochtone.
Qu'on reparle les consultations avec les nations autochtones, avec les entrepreneurs forestiers et avec aussi vous autres, les préfets et les maires. Donc, je vous annonce aujourd'hui, on ne va pas ramener le projet de loi 97.
Et justement, le président de la Fédération québécoise des municipalités, Jacques Demers, a salué la décision du gouvernement.
On est content de recommencer à le travailler, mais travaillons avec tout ce qui a été fait. Alors, partons pas à zéro dans ce dossier-là. Puis je pense que ça va réunir tout le monde si on est capable de le faire sur un court laps de temps.
Et le chef de Banawan, Sibi Faman, lance ce message au gouvernement et aussi à toutes les formations politiques.
Je souhaite que les autres partis politiques réfléchissent aussi comment ils devraient établir de nouvelles relations avec les Premières Nations. On parle souvent de réconciliation, de relations de nation à nation, mais il faut qu'il y ait du concret en ce sens-là.
Et puis, Pierre, on attend toujours la réaction des syndicats de médecins là, à l'ouverture du gouvernement.
Oui, on se donne du temps pour donner la réponse au gouvernement qui a proposé hier soir de la médiation pour sortir de la crise. La présidente du Conseil du Trésor, France-Hélène Duranceau, a invité les deux fédérations à participer au processus. Et la présidente de l'Association des médecins omnipraticiens Laurentides de la Naudière, Lynn Couture, réfère au processus qui est en vigueur pour les professions de policiers et de pompiers.
Donc, ce processus-là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ben d'abord, négocier. Ensuite, si les négociations aboutissent pas, aller à la médiation. Et si la médiation règle pas tous les problèmes, ben à ce moment-là, ça se termine en arbitrage. Ben nous, si c'est un principe comme celui-là, et qu'on exclut, évidemment, le projet de loi 106, on va être tout à fait ouvert à regarder ça, là. À la limite, on vous dirait pourquoi on n'a pas fait ça dès le départ.
Ben merci beaucoup à Pierre Jubainville. On rappelle cette nouvelle de dernière heure. Démission du conseil municipal au grand complet du côté de Sainte-Mélanie.
Une conseillère qui a continué à réfléchir.
Ah oui, bon, OK. Merci Pierre. Ouais.
Au 99.1 88.9 CFNJ, c'est Lanaudière PM avec Claude Fournel.
CFNJ 99.1
Lanaudière PM, transport.
Oui, il y a d'importants travaux qui auront lieu en début de semaine qui forcent la fermeture d'un tronçon de la rue Saint-Pierre-Sud près de la 158. Donc, ça débute la semaine prochaine. Pierre Jubainville a profité de son entrevue là, avec le maire de Joliette, Pierre-Luc Bellerose, un peu plus tôt là, pour faire le point sur tous les dossiers qui traînent avec le ministère des Transports.
D'importants travaux vont se dérouler lundi sur Saint-Pierre-Sud et 158. Pouvez-vous nous en donner les détails?
Oui, mais juste faire une mise en contexte rapide. L'an dernier, nous avons procédé là, la mise en place d'un plan de transport actif. Donc ça, c'est autour de juin là, 2024. Il y a eu des consultations là, dans le cadre de ce plan-là pour savoir c'était quoi les attentes, c'était quoi les besoins des gens. Parce que à ce moment-là, on avait autour de 1000 joliettins là, qui se prévalaient, soit des pistes cyclables ou des trottoirs donc qui privilégiaient le transport actif là, sur une base quand même assez fréquente. Donc, depuis ce temps-là, il y a certains travaux qui ont été amorcés pour soit sécuriser certaines rues ou pour améliorer l'expérience là, des cyclistes notamment. Donc, la ville de Joliette va poursuivre l'amélioration du réseau cyclable. Là, cette fois-ci, les travaux vont concerner la rue là, Saint-Pierre-Sud, donc entre la 158 et la rue Albert-Lucier, là, dans le carrefour du Moulin. Donc, à partir du 24 septembre, il va y avoir l'ajout d'une piste cyclable là, devant les immeubles situés situé au 979 jusqu'au 995 Saint-Pierre-Sud. Le 29 septembre, en soirée, à partir de 19h, il va y avoir une fermeture complète là, du tronçon de la rue Saint-Pierre-Sud pour le remplacement d'un ponceau. Donc, il va y avoir un chemin de détour là, via Saint-Paul. Et le 30 septembre, en matinée, on prévoit là, la réouverture de la rue. Donc, 30 septembre ou maximum 1er octobre, là, c'est toujours selon les conditions météo. Alors là, à ce moment-là, il va y avoir une nouvelle fermeture du tronçon pour des travaux de pavage. Et le détour là, va se faire là, via la rue Saint-Paul. Mais j'invite quand même les gens, malgré là, ce plan de Mathieu, à consulter là, nos différentes plateformes ou auprès de la ville directement.
Les automobilistes vont donc devoir faire un détour par Saint-Paul. Une question qui me vient en tête, ça nous rappelle qu'en cas d'urgence, c'est le seul accès au carrefour du Moulin.
Tout à fait. Ça fait partie justement des nombreuses discussions là, qui ont cours avec le ministère là, des Transports depuis de nombreuses années. Avant même mon arrivée là, à la mairie, je l'ai vécu comme conseiller politique dans une autre vie. Donc, ça fait des décennies qu'il y a des demandes parce que oui, il y a des développements immobiliers du côté de Joliette, mais on a Saint-Paul aussi qui emprunte là, abondamment cette voie-là, cette artère-là. Donc, ça pose différentes problématiques et on s'auto sur la 158. Donc là, il y a des enjeux de sécurité. Donc, vous soulevez un excellent point. On doit à tout de moins trouver des solutions. Est-ce qu'il y a une bretelle supplémentaire qui peut être ajoutée? Est-ce qu'on peut aménager ça différemment? Mais le statu quo n'est malheureusement pas une option et hélas, on n'a toujours pas là, de suivi de la part du ministère. Et là, on a un nouveau ministre là, qui vient d'entrer en fonction, donc un changement aussi très souvent là, des membres du cabinet. Donc, ça va être sûrement à refaire. Là.
Qu'en est-il justement des travaux de sécurisation de la 158 qui avaient été annoncés? Ça semble pas avancer.
Écoutez, on est passé de différents scénarios à des reports, à des études, des analyses. On a même eu à un moment donné la proposition d'un carrefour giratoire là, aérien. Donc, vous voyez un peu là, où on en est. Là. On essaie là, de poursuivre là, les discussions, d'exercer des pressions, mais malheureusement, jusqu'à maintenant, on n'a pas nécessairement d'échéancier, on n'a pas non plus de détails, de précisions sur les intentions du ministère. C'est la même chose, notamment avec la rue Baudry, qui est dans un état là, pitoyable, qui est repoussé d'année en année. On parle maintenant de 2027 ou de 2028. Le pont Barbé aussi, avec une voie fermée. Donc, il y a beaucoup de pain sur la planche au niveau du ministère des Transports, et nous sommes toujours en attente là, de développement à ce propos-là.
Pourquoi, d'après vous, ça bouge pas?
Ben, écoutez, il y a plusieurs motifs. Je dirais que la raison financière est toujours la première qui est énoncée. On sait qu'il y a quand même au Québec plus de 300 000 kilomètres de route, dont 30 000 est sous la responsabilité du ministère des Transports. Donc, comme je le disais à l'antenne du CFNJ, d'ailleurs, la semaine dernière, avant de privilégier là, disons des nouvelles infrastructures ou de penser à de nouveaux projets, il faudrait être en mesure de faire l'entretien ou la réfection de nos infrastructures actuelles parce qu'on se retrouve avec des ponts fermés ou une voie fermée en plein milieu d'une agglomération de plus de 50 000 habitants avec une rue Baudry où il y a plus de 20 000 véhicules par jour qui empruntent cette artère-là qui est dans une condition là, qui est inacceptable. Donc, on poursuit les discussions, on exerce de la pression autant que faire se peut. Il y a eu quand même certains gains, là, si on pense au feu protégé, au feu tout rouge, il y a eu des concessions de la part du ministère, mais c'est très fastidieux, très laborieux. On doit vraiment là cogner à plusieurs portes, malheureusement, parfois aussi aller du côté des médias. Donc, c'est pas la voie qu'on veut privilégier, mais quand ça fait des années ou des décennies qu'on se retrouve avec un dossier comme celui-là qui ne progresse pas, mais on est dans l'obligation là de privilégier cette façon de faire. Là.
C'était le maire de Joliette, Pierre-Luc Bellerose. On rappelle que lundi, il y aura de gros travaux qui vont débuter. Là. Fermeture à prévoir aussi sur la rue Saint-Pierre-Sud.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 en prix avec les trois jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer. As-tu ta carte? Bingo!
Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ à Crabtree Dépanneur du Centre, Dépanneur Crabtree Vidéo, Marché Beaulieu, l'Expert Dépanneur. À Notre-Dame-de-Lourdes, dépanneur Gabi, les délices de Lourdes. À Sainte-Élisabeth, dépanneur chez Napol. À Saint-Félix-de-Valois, dépanneur Estelle. Métro Boucher, Tabagie Saint-Félix, dépanneur Proxy Extra. Et marché IGA Rainville. À Saint-Jean-de-Mata, supermarché Métro, l'Expert dépanneur. Marché Express Ultramar, dépanneur du Lac-Noir. Et à Saint-Damien, marché Métro Imerie, dépanneur Le Rendez-vous. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
T'aurais pas une idée pour que je me fasse connaître sans me ruiner? Les gens veulent acheter local, mais s'ils me trouvent pas, ça sert à rien.
Tu te rappelles du Petit Bottin? Il est maintenant modernisé. En plus d'être distribué par la Poste, ils ont un site web bien référencé. Va sur notreentourage.ca. Inscris-toi.
Présenté par les Habitations Bordelot, le Salon 50 Plus de Lanaudière est de retour les 26 et 27 septembre aux Galeries Joliette. Découvrez plus de 70 exposants de produits et services pour répondre aux besoins des 50 ans et plus. Au menu, plusieurs conférences. Chantal Lacroix, présentée par Club Voyage Albatros. Le Pharmacien, présenté par Pharmaprix des Galeries Joliette. Marie-Josée Taillefer, présentée par le Réseau des Cliniques Lob. Et Sébastien Buisson, des Habitations Bordelot. Les nouveautés cette année, dégustation de repas prêts à manger convives, des conseils pour la vente de votre propriété, des ateliers de création, des robots. Tentez votre chance pour le moitié-moitié et bien plus. Plusieurs tirages de prix de présence pour les visiteurs. Le Salon 50 Plus de Lanaudière, les 26 et 27 septembre aux Galeries Joliette. Une invitation de FADOC, Région Lanaudière.
Pour vendre votre propriété, 450-935-3228. Avec l'équipe Paradis, c'est simplement efficace. Courtier immobilier, proprio direct.
À CFNJ, voici le commentaire de Jacques Plante.
Salut Jacques.
Salut Claude, bonjour tout le monde.
Bon ben, on coupe chez Poste Canada. Il y aura plus de livraison à domicile et fermeture de nombreux bureaux en milieu rural. Donc, fermeture de bureaux de poste dans les milieux ruraux. Ce sont encore les régions qui vont écoper.
Mais en tout cas, si on se fie au point de presse de Lightbound, qui est le ministre responsable de ce dossier-là, il annonçait ça aujourd'hui. Actuellement, on dit qu'il reste 4 millions d'adresses où on livre encore la poste à domicile.
Oui.
On a levé ça, je ne sais pas si les gens vont s'en souvenir, là, avec la nouvelle façon de fonctionner, ils vont lever le moratoire sur la transition aux boîtes postales communautaires. Vous rappelez-vous de cette histoire-là? Sont faites en quelque part loin d'ici, ces boîtes-là, là, qu'on a, les boîtes de rue.
Oui.
Puis on s'est aperçu la première année que quand c'est l'hiver, là, la clé s'est gelée.
Oui.
Hein? Il y avait eu des problèmes avec ça.
Oui, oui, oui. C'est,
le gouvernement avait fait rire de lui pas à peu près parce que ceux qui les ont fabriqués, ils savaient pas qu'au Québec, l'hiver, ça gèle. Là. Et on dit qu'on va étendre ces boîtes-là. Le ministre disait que ça peut prendre jusqu'à 9 ans, mais que dans les 3 ou 4 années qui vont suivre, et ça, tu viens de l'évoquer, là, les gens qui sont à proximité dans des villes un peu plus grandes, j'ai l'impression que ça va s'installer rapidement, mais les gens qui sont plus à l'extérieur, au milieu urbain, eux, ils vont écoper, évidemment.
Ben, c'est ça qui m'agace, mais ça m'agace pas à peu près quand j'ai lu la nouvelle cet après-midi. Là, ça veut dire que je donne un exemple. La municipalité de Saint-Côme, si on décide de fermer le bureau de poste, un résident de Saint-Côme qui veut aller chercher son courrier, est-ce qu'il va devoir se rendre à Notre-Dame-de-la-Merci ou encore se rendre à Saint-Émilie? Est-ce qu'on garde le bureau de poste ouvert à Saint-Émilie ou encore, il va falloir qu'il se rende à Saint-Jean-de-Mata? Ça n'a aucun sens, Jacques. On coupe dans les services aux municipalités. Et là, ça me rappelle aussi les Desjardins. On ferme les caisses, on retire des guichets dans les municipalités. Ça fait pas de sens. Là.
Mais tu sais, ce que tu indiques, c'est que, puis l'exemple de Saint-Côme, ça pourrait être un exemple de plein d'autres endroits, où, comme on vient de le mentionner, le temps qu'on va installer des boîtes, là, ces gens-là, ils vont faire quoi? Alors, est-ce qu'ils vont mettre carrément la charrue de 20 bœufs? en disant oui, on ferme le bureau parce que là, il y a besoin de fric, le ministre. Là. C'est l'ordre qui est donné.
Oui, on sait que Post-Canada, c'est déficitaire au bout. Là.
Mais tu sais, il est temps qu'ils se réveillent, Claude. Là, ils sont rendus. C'était quoi le chiffre? C'était
400 millions conversion. Non. En fait,
C'était des milliards. Hein?
Oui. Depuis 2018, Post-Canada qui a accumulé plus de 5 milliards en pertes.
C'est ça. Ouais. Et là, tu dis, il y a quand même quelqu'un quelque part qui a dormi sa switch. Là.
Mm-hmm.
Parce que, tu sais, je lisais tantôt, il disait que oui, il y a moins de volume de courrier. Ben oui.
Ben oui, mais depuis l'arrivée d'Internet, tout le monde le sait.
On mâche par courriel.
Oui.
Souvent, tu sais, moi, mon chèque de BS, là, mon chèque de pension, parce que oui, j'ai passé l'âge. Hein, on avait ça par la poste avant.
Ouais.
Là, c'est déposé.
Ben, dépôt direct.
C'est déposé direct. C'est donc, c'est encore des papiers de moins.
Oui.
Moi, je fais juste regarder là, dans mes culottes là, sur les 5 jours de la semaine, parce que là, on dit qu'on veut sauter des journées. Sur les 5 jours de la semaine, je traverse la rue chez nous, là, les boîtes sont là.
Ouais.
J'ouvre ma petite porte, là, il n'y a rien. Ou de temps en temps, un petit pamphlet.
Oui, c'est ça. Il y a, bon, on fait affaire de moins en moins avec Post-Canada. Il y a aussi des services de courrier privé. Il faut en parler, accapare une bonne partie du marché.
Mais pourquoi?
Pourquoi? C'est-tu parce que le service de Post-Canada est trop lent et pourri.
C'est-tu parce qu'il y a de l'efficacité là-dedans?
Ben oui, le privé a intérêt à être efficace.
Tu sais, parce que quand tu me l'évoques, ça, je te dis, il y en a qui dormaient sur la switch, là. Quand ils ont vu arriver le phénomène d'Internet d'une part, après ça, ces camions-là, le monsieur Lebrun, Puro Later, nommez-les tous, ils s'en promènent partout dans la rue chez nous, puis partout, hein. Mais tu sais, tu commandes quelque chose, 2 jours après, c'est arrivé.
Oui. Et on fait moins affaire avec des services comme Express Post de Post-Canada, par exemple, pour accélérer l'envoi du courrier. Parce que, on fait affaire avec une compagnie privée, ça va plus vite, ou on envoie ça par Internet.
Et
maintenant,
ça dépend toujours c'est quoi le but, là, c'est quoi le document.
C'est ça. T'sais. Et là, on va aussi avoir des délais plus longs dans la livraison du courrier. C'est-à-dire que tu envoies une lettre au lieu qu'elle arrive 2 jours plus tard, avoir arriver 4-5 jours plus tard.
Oui, exactement. Ouais. Et comme je disais aussi, on veut peut-être sauter des journées dans la semaine. Là. C'est-à-dire que le camion de la poste va pas passer à tous les jours. Mais moi, je me pose toujours une question quand on parle de ça, service aux gens. Hein? C'est comme Hydro-Québec. Là. C'est le plus beau comparatif que je peux pas faire. Hydro-Québec, c'est une grosse tour infernale. Il y a plein de monde dans les bureaux. Mais quand il mouille, puis quand il y a des pannes électriques, c'est les hommes et les femmes qui sont sur les petits camions sur la rue qui nous aident. Là, est-ce que le ministre en a pas parlé, là? Est-ce qu'il va faire du dégraissement aussi dans l'appareil administratif?
Ah, voilà, tu tiens une bonne chose, là. Mais moi, ce qui m'inquiète vraiment, c'est le service aux régions.
Ouais.
Et je pense à certaines municipalités de la Naudière. Par exemple, Saint-Zénon.
Ouais.
Est-ce que j'allais chercher son courrier à Saint-Michel-des-Saints ou à Saint-Émilie? Ça n'a pas de sens.
Ah non,
ça n'a pas de sens.
Ils nous prennent vraiment, c'est le cas de le dire, des fois pour les timbrer. si j'ai autre chose à te dire, Claude, je t'écris.
Ouais. Par courrier électronique, ça va être mieux, je pense.
Ouais, mais je peux t'envoyer une belle petite carte par la poste, là, avec un thème Trump.
On va savoir ça dans 2 semaines.
Un thème Trump.
Ouais. Salut Jacques, salut. Merci. Je salue et remercie nos collaborateurs à l'émission aujourd'hui, Régent Turgeon, François Morin, Pierre Jubinville et celui que vous venez d'entendre, Jacques Plante. Ici Claude Fournel. Passez une excellente soirée. Nicolas Bellemare sera là pour le 5 à 7 trad de l'autre côté de l'actualité de 17h. Manquez pas la vie dans la Naudière dans un instant. Nous, on est en congé demain. On se retrouve lundi 16h pour un autre La Naudière PM. Salut!